France Inter.
Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, les trois femmes israéliennes, désormais ex-otages du Hamas, sont arrivées en Israël auprès de leurs proches. Elles subissent en ce moment des examens médicaux. Soulagement et applaudissements en Israël, nous serons à Tel Aviv. Nous irons également en Cisjordanie, où les familles palestiniennes attendent le retour en échange des prisonniers palestiniens. Enfin, cette trêve qui a débuté ce matin à Gaza permet aussi l'envoi d'aide humanitaire. Nous serons parmi les camionneurs à la frontière égyptienne vers Gaza. À la une également ce soir un témoignage dans ce journal, celui de l'avocate historique de l'ancien opposant russe Alexeï Navalny, l'une de ses dernières avocates encore en liberté. Notre reporter François Breton l'a rencontrée à Paris et elle appelle à la libération immédiate de ses trois confrères. Le tennis avec Gaël Monfils qui jouera demain matin son 8e de finale de l'Open d'Australie. Le français impressionne même la légende du tennis John McEnroe, vous l'entendrez. Et puis le temps de demain, lundi, Céline Dacosta. La grisaille encore pour certains.
Oui, une grisaille matinale qui concernera toujours la moitié nord. Ce sera également mitigé sur le sud-est.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Elles ont traversé l'enfer. Les trois jeunes femmes israéliennes libérées cet après-midi après 15 mois passés à Gaza entre les mains du Hamas. 15 mois d'esclavage, dit encore le Premier ministre israélien Netanyahou. Ce soir, elles ont retrouvé leurs proches. Et à Tel Aviv, cet après-midi, bonsoir Virginie Pironon. Ce soir, des milliers d'Israéliens soulagés étaient rassemblés, place rebaptisée Place des Otages, pour applaudir ces trois libérations.
Écoutez, on vient de vivre un moment extrêmement fort sur la place des otages ici où sont réunis des milliers d'Israéliens. Applaudissements au moment où les trois femmes sont apparues furtivement sur les écrans géants ici. Les gens se sont mis à s'étreindre, certains à pleurer. Ils ont suivi le processus de libération en direct avec des images fournies par le Hamas calibrées pour montrer précisément que le mouvement islamiste n'est pas mort. Tania Cohen-Scali est la directrice du Musée des Arts, là où se trouve la place des otages. Elle suit tout ce qui se passe sur cette place depuis 15 mois et les larmes aux yeux, elle nous a confié avoir l'impression d'avoir vécu aujourd'hui un moment historique. Ça y est, enfin, on les voit. Elles ont l'air en vie, elles marchent. Et le fait qu'elles marchent, c'est déjà quelque chose. Je suis sûre qu'elles sont dans un état lamentable après une année et trois mois de captivité. Mais les gens ici réagissent avec une telle émotion. C'est tellement émouvant. C'est vraiment quelque chose de partager ça tous ensemble ici. La Croix-Rouge a déclaré que les trois otages sont en bonne santé. Elles vont retrouver leurs proches, puis passer une série d'examens médicaux. Ici, tout le monde se réjouit de cette libération, mais chacun pense à ceux qui sont encore détenus dans la bande de Gaza. C'est donc une joie très mesurée, mêlée d'appréhension et d'angoisse.
Virginie Pironon à Tel Aviv, et selon le Hamas, le prochain échange de prisonniers aura lieu samedi. Israël n'a pas encore confirmé cette information. On attend maintenant la libération de près d'une centaine de prisonniers palestiniens. Et depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à 10h15 ce matin, heure de Paris, des milliers de Gazaouis ont pris la route pour tenter de retrouver leur maison, principalement vers le nord de l'enclave. Et parmi les prisonniers palestiniens qui seront libérés, 78 rentreront chez eux en Cisjordanie. Bonsoir Farida Nouar.
Bonsoir.
Envoyé spécial sur la place principale de Bitounia, hein, c'est une commune proche de Ramallah, où les Palestiniens sont nombreux ce soir à attendre le retour des ex-prisonniers.
Et ces prisonniers sont très attendus ici. Des centaines de personnes sont rassemblées sur cette place qui se colore de grands drapeaux palestiniens, du Fatah et du Front populaire de libération de la Palestine. Certains ont des keffiyeh autour du cou, un enfant en quad parade en faisant le signe de la victoire. De nombreuses familles sont là, grand sourire aux lèvres, ils filment, ils chantent, crient des slogans de la résistance, certains en hommage au Hamas. Il y a aussi beaucoup d'enfants, certains se sont apprêtés pour l'occasion. Un bébé dort dans un petit couffin, sans doute pour présenter le nouveau-né à un proche libérés. Tous attendent ici une sœur, une tante, un neveu, un fils qu'ils n'ont pas vu depuis des années ou bien des mois. Et c'est avec fierté et bonheur, disent-ils, que nous allons accueillir nos familles. La fierté, disent-ils, est aussi pour Gaza. Beaucoup de sang a coulé pour le retour de nos prisonniers.
Et cette trêve qui a débuté aujourd'hui permet aussi de faire entrer à Gaza les premiers camions d'aide humanitaire. Les autorités égyptiennes ambitionnent dans les 6 semaines à venir de faire passer 600 camions par jour au point de passage entre l'Égypte et Gaza. Parmi les camionneurs, reportage de notre correspondant Edouard Dropsy.
Pour la première fois depuis 8 mois, les camions d'aide humanitaire passent par le poste frontière de Rafah en direction de Kerem Abou Salem en Israël. Ahmed attend depuis des jours de pouvoir délivrer ses denrées à Gaza.
Moi, ça fait 4 jours que je suis là. Dans mon camion, c'est du carburant que l'on transporte. Bientôt, nous allons pouvoir rentrer dans Gaza, mais les formalités ne sont pas encore finies.
Malgré un cessez-le-feu repoussé de quelques heures, plus de 260 camions, dont 16 de carburant, ont été délivrés ce dimanche, selon les autorités égyptiennes. Mohamed est fier de pouvoir aider ses frères palestiniens.
Je suis content, très content. Ce sont nos frères. Ils ont du sang arabe comme nous. Moi, j'attends depuis le 23 décembre. Cela va faire un mois bientôt. C'est long.
Les ambulances, elles, se sont heurtées au refus israélien et ont dû faire marche arrière, empêchant l'évacuation de centaines de Palestiniens vers des hôpitaux égyptiens. Rafah est d'ordre psy France Inter.
Et cette trêve de 6 semaines à Gaza a aussi des conséquences politiques pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le parti d'extrême droite préfère se retirer de la coalition gouvernementale au pouvoir, jugeant cette trêve trop dangereuse pour Israël. Quant au ministre israélien des Finances, lui aussi menace de quitter la coalition si Israël met définitivement fin à cette guerre. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Correspondant à Jérusalem RFI pour France Inter, Netanyahou politiquement fragilisé en interne. Est-ce que ça annonce un possible retour de la guerre une fois que seront passées les 6 semaines de trêve ?
Un choix en tout cas très difficile pour Benjamin Netanyahou. Les lettres de démission sont parties. On peut dire qu'Itamar Ben-Gvir a tenu parole avec son parti, la Force juive. Il quitte le gouvernement et la coalition. Il a indiqué qu'il démissionnait en raison de la signature de l'accord. La procédure engagée est dangereuse et irresponsable, affirme-t-il. Alors il faut le souligner, cela n'affecte pas la mise en œuvre de la trêve, du moins pour ce qui est de la première phase. Mais Benjamin Netanyahou se retrouve avec une majorité inconfortable de 62 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Netanyahou fait maintenant tout pour que le sionisme religieux, l'autre formation d'extrême droite de la coalition, ne suive pas l'exemple de Ben-Gvir. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, son chef de file, a voté contre l'accord, mais sans quitter le gouvernement. Il promet de le faire si les combats ne reprennent pas à l'issue de la première phase, et cela marquerait la fin du gouvernement de Benjamin Netanyahou, du moins sous sa forme actuelle.
Michel Paul, en direct de Jérusalem. Avant de prêter serment demain, Donald Trump organise aujourd'hui à Washington un rassemblement de la victoire et du retour de la Grande Amérique. Ça se passe au Capitol One Arena. Ce sera le premier meeting de Donald Trump à Washington depuis sa défaite il y a 4 ans. Bonsoir Faustine Kalmels.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Washington. Les partisans de Donald Trump sont venus en masse.
Ah oui, on voit autour de nous des centaines de casquettes rouges, des fans déguisés, des drapeaux américains et des Santiago. C'est rare de voir Washington aussi rouge, couleur des républicains. Steve vient de Pennsylvanie, 5 heures de route, poncho en plastique pour se protéger de la pluie glaciale, mais ça ne tempère pas ni son espoir ni son énergie.
J'espère pouvoir célébrer cette victoire avec d'autres vrais patriotes et combattre les forces qui sont contre nous. J'espère revenir à une meilleure économie et une vie plus facile pour les travailleurs.
Comme lui, ils sont des milliers montés à DC et la file d'attente s'étend sur des kilomètres devant cette arena. Patience et vêtements chauds de rigueur, Bradley arrive de Floride.
Trump est le premier pour qui j'ai pu voter. Alors oui, je voulais être là. Et comme ils ont annulé les cérémonies demain à cause du froid, ici c'est notre plan B. Mais honnêtement, je crains qu'on n'entre pas.
Car la Capitol One Arena peut contenir 20 000 personnes et les partisans du nouveau président sont beaucoup, beaucoup plus nombreux à se masser ici à 2 pas du Capitole. Bonnet rouge sur la tête, Dan a pris l'avion depuis le Texas, meilleur état de l'Union, clame ce Trumpiste de la première heure.
Je veux voir cette investiture grandiose. Je suis un grand fan de Trump. C'est un homme indispensable en ce moment. On a besoin de lui, le monde a besoin de lui, pas seulement nous.
Les portes de l'aréna ouvrent à l'instant. La foule continue de converger vers le stade et cette immense file d'attente qui s'allonge donc encore alors que la neige commence à tomber ici à Washington.
Mais oui, il devrait faire moins 11 degrés demain pour la prestation de serment. C'était Faustine Calmel avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques. Changement de majorité donc demain à Washington. Changement de style aussi entre le calme démocrate et le bouillant républicain. Une différence de style qu'une Française a pu éprouver. Elle s'appelle Audrey Lefebvre. Elle est maquilleuse et c'est elle qui s'est occupée de la famille Trump lors de sa première investiture en 2017. Sébastien Paour, notre correspondant, l'a rencontrée.
Ce 20 janvier 2017, l'agence qui emploie Audrey Lefebvre la convoque avec 5 autres maquilleuses à la Blair House, la résidence des invités de la Maison Blanche, juste en face. Elle ignore jusqu'à son arrivée sur place qui sont ses clients.
J'ai découvert à ce moment-là que j'allais travailler avec la famille Trump. Il y avait tout le monde. Il y avait le président avec Melania, la fille, les fils, les petits-enfants. Tout le monde était là.
Elle observe le futur président.
Heureux, serein. C'est quelqu'un de déterminé. On sent un profond attachement à son pays, un patriotisme, où vraiment il a envie de produire du bien pour ce pays.
Alors question à la spécialiste, pourquoi ce teint orange ?
Parce qu'il porte avant tout un auto-bronzant. Parce que c'est quelqu'un qui a une peau très claire. On le voit d'ailleurs à la racine de ses cheveux, c'est très blanc, et il a beaucoup de rougeur. Donc pour cacher ses rougeurs, je pense qu'il a fait ce choix d'avoir ce côté bronzé. Alors bon, à l'extrême, il a fait ce choix-là.
Pour des raisons de confidentialité, celle qui a aussi déjà maquillé Joe Biden en 2019, où le couple Clinton ne dira qu'après l'investiture si elle a été de nouveau sollicitée par la famille Trump. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et puis en Iran, on apprend ce soir que le rappeur Amir Tatalou est condamné à la peine de mort. Il est accusé par le régime de diffuser des contenus obscènes. Âgé de 36 ans, le chanteur et compositeur a été l'un des premiers et un des pionniers du rap en Iran.
France Inter, Éric Delvaux.
Et je vous propose un témoignage à présent, celui de l'avocate historique de l'ancien opposant russe Alexeï Navalny. Elle est l'une des dernières avocates encore en liberté, Olga Mikhailova. Elle est en France ce week-end et elle dénonce la condamnation vendredi de 3 de ses collègues en Russie. 3 avocats qui eux aussi avaient pris la défense de Navalny jusqu'à sa mort il y a presque un an dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe. François Breton, Olga Mikhailova condamne cette décision et elle appelle donc à la libération immédiate de ses 3 confrères.
Olga Mikhailova est l'une des figures historiques de l'équipe juridique d'Alexeï Navalny. En 2021, l'opposant à Poutine est hospitalisé en Allemagne après une tentative d'empoisonnement par les services secrets russes. L'avocate, alors, s'oppose à son retour à Moscou.
Mais je n'ai pas pu le faire changer d'avis. Quand je lui ai dit qu'il allait être arrêté en arrivant à Moscou, il m'a répondu avec le sourire « Ils m'enfermeront et tu me défendras ».
Olga Mikhailova défendra Alexeï Navalny jusqu'en octobre 2023 avant d'être interdite de visite en prison. Le pouvoir russe muselle l'équipe juridique.
En fait, les avocats étaient le seul pont entre Navalny et le monde entier. Et ce n'est que grâce aux avocats que tout le monde a pu savoir ce qui lui arrivait en prison. Les autorités se vengent clairement.
Les collègues d'Olga Mikhailova ont écopé de peines allant jusqu'à 5 ans et demi de prison ferme. Des décisions absurdes, dénonce l'avocate.
Depuis l'époque de Staline, les avocats n'ont jamais été emprisonnés pour avoir défendu qui que ce soit, même les dissidents politiques.
Olga Mikhailova appelle désormais à la libération de ses collègues depuis la France, sa terre d'exil. Un retour en Russie est inenvisageable aujourd'hui. L'avocate y risque la prison pour avoir fait son travail.
L'actualité politique en France avec une confirmation, la division à gauche au sein du nouveau Front populaire. Le Parti socialiste n'est plus un partenaire du NFP, affirme aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, depuis que le PS n'a pas voté la motion de censure porté par les Insoumis. Pour François Hollande, Jean-Luc Mélenchon est comme Madame Irma, ses prophéties ne se réalisent jamais. Et pour sa part, le leader de Place Publique, Raphaël Glucksmann, proche du PS, disait à la mi-journée sur France Inter qu'il faut construire désormais une nouvelle offre politique à gauche sans la France Insoumise ni Jean-Luc Mélenchon.
Dans notre pays, la gauche majoritaire, elle est démocrate, elle est pro-européenne, elle est écologiste, elle est humaniste, elle n'est pas sur les positions de Jean-Luc Mélenchon. Et donc elle ne doit pas avoir peur, n'ayez pas peur, il ne peut pas nous détruire. Donc maintenant, on assume le rapport de force, on assume le fait d'avoir notre vision des négociations politiques. Moi, j'ai soutenu le nouveau Front Populaire parce qu'il y avait une menace imminente de victoire de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, d'un gouvernement d'extrême droite. Mais j'ai toujours dit que ce n'était pas un mariage. On doit parler aux électeurs insoumis, mais on ne doit pas lier notre destin aux desiderata et aux obsessions de Jean-Luc Mélenchon pour une raison très simple, c'est qu'on ne veut pas la même chose là.
Raphaël Glucksmann dans l'émission Questions politiques de Karine Bécart à la mi-journée sur France Inter. Le ministre LR de l'Intérieur Bruno Retailleau assure aujourd'hui que le gouvernement Bayrou va toucher à l'aide médicale d'État, cette AME qui permet à des ressortissants étrangers sans titre de séjour régulier en France de pouvoir aller se soigner. Un possible nouveau coup de rabot sur MaPrimeRénov', cette principale aide à la rénovation pour l'amélioration de l'habitat, car Bercy cherche décidément des économies partout. C'est près d'un tiers du budget global de MaPrimeRénov' qui pourrait être amputé, l'équivalent, Claire Chaudière, de plusieurs centaines de millions d'euros.
C'est une baisse de pas moins de 700 millions d'euros sur l'enveloppe de MaPrimeRénov' qui est envisagée par Bercy, nous confie ce week-end une source. Au cœur des tractations gouvernementales de ces derniers jours, il faut trouver des sous, on cherche partout, rien d'étonnant. Sauf qu'une telle baisse de voilure qui porterait le budget du dispositif à 1,6 milliard seulement, alors que la dynamique commence tout juste à prendre sur les rénovations dites d'ampleur, serait une grave erreur, lâche un représentant du secteur. On risquerait de se retrouver en septembre prochain, poursuit-il, dans l'obligation de fermer le guichet, alors que l'on doit au contraire accélérer la cadence pour tenir les objectifs. Une réflexion est aussi en cours pour terminer de rapprocher les deux systèmes d'aide, MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, les C2E, assure un autre acteur du BTP. Ni Bercy, ni le ministère du Logement n'ont souhaité ce week-end de confirmer toutes ces informations. Des discussions sont en cours à l'approche du débat parlementaire de mardi, répond l'entourage de Valérie Létard.
Claire Chaudière, 8 jours après la violente agression au couteau d'une joggeuse dans un parc de Vergès près de Nîmes. Le suspect en garde à vue vient d'être mis en examen pour tentative d'assassinat. La victime, elle, se trouve désormais dans un état stable. Son agresseur est un homme de 25 ans. Et depuis ce soir, Jean-Philippe Degnaud, bonsoir.
Bonsoir.
Depuis ce soir, on connaît un peu mieux son profil.
Oui, c'est un jeune homme qui a commis cette agression au hasard, précise ce soir le procureur adjoint de Nîmes, confirmant que le suspect est passé aux aveux en garde à vue depuis vendredi soir. L'individu n'a pas d'antécédents judiciaires, mais il est en proie à des difficultés d'ordre psychiatrique. Il venait d'être hospitalisé pendant 4 jours et avait obtenu une permission de sortir la veille de l'agression. Sur cette enquête, depuis samedi dernier, donc 70 gendarmes ont été mobilisés. Avec cette difficulté, les 2 témoins directs de l'agression, dont une gendarme hors service, n'ont pas pu donner de description précise de l'individu. Mais c'est en épluchant les images de dizaines de caméras de vidéosurveillance que les enquêteurs ont réussi à isoler un suspect et à l'identifier grâce à la reconnaissance faciale. En perquisition à son domicile, les gendarmes ont retrouvé le blouson du jeune homme ainsi qu'un couteau avec des traces de sang de la victime. Cette mère de famille de 44 ans a donc reçu 6 coups de couteau ce jour-là dans la nuque et dans le dos. Mais comme vous le disiez, son pronostic vital est aujourd'hui stabilisé.
Jean-Philippe Degnaud, service police-justice de France Inter. Une compagnie de CRS déployée ce soir à Mâcon en Saône-et-Loire après les violences urbaines de la nuit dernière dans le quartier sensible des Saugerais. Dégradation sur 3 bâtiments publics, 3 véhicules de police endommagés et 7 autres véhicules incendiés. Une personne a été interpellée. Le tennis à Melbourne, l'Open d'Australie. Hugo Humbert ne disputera pas son premier quart de finale en Grand Chelem. Le numéro 1 français a été éliminé en 8e de finale, battu par le numéro 2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev. Il reste donc un Français à Melbourne, Gaël Monfils. À 38 ans, le Parisien jouera demain matin, il sera 5h30 heure française, son 8e de finale face à un joueur qu'il n'a jamais rencontré, l'Américain Ben Shelton. Gaël Monfils qui impressionne tout le monde à Melbourne, y compris quelques légendes du tennis, Fabrice Abgral.
Quand John McEnroe parle de tennis, il faut toujours l'écouter, surtout quand l'ex numéro 1 mondial évoque Gaël Monfils.
Ce gars est incroyable. Je ne peux pas croire que mon fils joue comme ça à son âge. Il est l'un des 3 joueurs les plus talentueux à n'avoir jamais gagné un grand chelem avec Kyrgios et Zverev.
C'est un bel hommage, mais face à cette déclaration, Gaël, mon fils, ne réagit pas. Pas question d'évoquer la possibilité de gagner le tournoi. Il n'y croit pas, il n'en rêve pas non plus. En fait, Gaël, mon fils, prend beaucoup de recul face à tout ce qui lui arrive à Melbourne. C'est une belle façon, et sûrement la meilleure, de ne se mettre aucune pression. Quand elle arrive, il s'en dégage, un détachement qui lui permet de savourer le moment présent sans s'emballer. À 38 ans, le Parisien connaît trop bien le tennis pour savoir que d'un match à l'autre, tout peut être remis en cause. Alors, il préfère parler du bonheur d'être sur le court, du plaisir qu'il prend en match et des émotions qu'il ressent. Gaël Monfils est un vieux briscard, plein de sagesse, apprécié de tous. Dans le vestiaire, les joueurs aiment sa bonne humeur et dans les tribunes, les spectateurs se déplacent pour voir son tennis spectaculaire et son côté showman. Et Monfils en joue tellement bien qu'il y a 15 jours, il a remporté le tournoi d'Auckland et une 9e victoire d'affilée demain lui permettrait d'atteindre son 11e quart de finale en Grand Chelem, le 3e à Melbourne.
Fabrice Abgral, le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On va démarrer la semaine avec des averses près de la Méditerranée.
Oui, de la pluie sur les côtes méditerranéennes où le ciel va rester bien couvert. Un petit peu de neige au-dessus de 1200 mètres sur les Alpes et puis encore des averses sur la Corse avec du vent. Pour le reste du pays, ce sera bien gris, froid le matin avec des brouillards givrants sur la moitié nord. Les éclaircies devraient revenir dans l'après-midi et puis pour le reste de la moitié sud, après dissipation de quelques brouillards matinaux, le soleil s'imposera en Aquitaine. Ce sera une alternance de neige et d'éclaircies pour les autres.
Et demain, il fera encore bien froid.
Oui, on va rester sous les normales de saison avec encore de nombreuses gelées le matin. Une moyenne qui ira de moins 4 à 0 degrés du nord au sud, 2 à 10 degrés près de la Méditerranée. Pour les maximales, elles s'échelonneront de 3 à 8 degrés sur la moitié nord, 9 à 14 pour la moitié sud.
C'était Céline Dacosta.